Seigneur Dieu, notre Père, nous tournons vers toi et que ta parole puisse nous instruire, Seigneur, au sujet de ton œuvre parfaite, de ce que tu fais en notre faveur, de ce que tu as fait pour tous les hommes, et en particulier pour ceux que tu rachètes par ton sang, le sang de la croix, le sang de ton Fils bien-aimé que tu as donné pour nous, Seigneur. Amen. Le thème de la Pentecôte, bien sûr, c'est l'Esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit qui est à l'œuvre lors de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. D'une manière bien particulière, à travers l'apparition et l'action d'une nuée. Je vais vous relire les passages concernant la nuée qui a permis la délivrance d'Israël d'abord et qui ensuite l'a conduit dans sa marche dans le désert. Chapitre 13 de l'Exode, verset 21. Bon, je prends à partir de 20, ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Au chapitre 14, versets 19 à 20, alors que l'armée de Pharaon, qui a été contrainte de laisser partir le peuple, s'est remise à sa poursuite, sur l'ordre d'un pharaon dépité et revanchard, eh bien, voilà, le peuple se trouvait en danger, menacé, ayant devant lui la mer et derrière lui l'armée du pharaon. Et voici ce qui s'est produit alors. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et au verset 24, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, il en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Clairement, cette colonne de nuée, elle est aussi appelée l'ange de l'Éternel et l'Éternel se trouve au cœur de cette colonne qui éclaire la nuit, qui est une colonne de nuée le jour, c'est la présence même de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est là et qui peut regarder et qui peut agir depuis la nuée contre le camp ennemi. Au chapitre 40 encore de l'Exode, les versets 34 à 38, parce qu'il y a eu les conseils de Dieu concernant l'édification du tabernacle et la construction du tabernacle, nous retrouvons cette nuée, puisque Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer parce que la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. On retrouve cette mention dans le livre des Nombres, au chapitre 9, les versets 15 à 23 d'abord. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, il y eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'élevait du soir au matin et s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ce qui se fait par Moïse, ici, se fait par Jésus-Christ pour l'Église, par l'action et la présence du Saint-Esprit. Au chapitre 10, versets 33 à 36, il y a cette précision. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. » et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Amen, parce qu'il fallait que Dieu réside au milieu de son peuple. Il avait promis et il était là en permanence au milieu de son peuple, et c'était lui qui guidait son peuple dans le désert. Alors ce n'est pas Moïse qui donnait l'ordre à Dieu de faire lever la nuée, c'est lorsque la nuée se levait que Moïse parlait et accompagnait, on peut dire, de sa parole, la décision divine en demandant au Seigneur, alors qu'il se levait, que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssaient fuient devant sa face. Car lorsque le Saint-Esprit est là, l'ennemi ne peut pas tenir. C'est aussi simple que cela. Il y a eu deux opérations conjointes pour la libération d'Israël que nous trouvons rappelées par Paul dans sa première aux Corinthiens au chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà ce qui s'est passé dans le passage que je vous ai lu de l'Exode. En fait, j'ai sauté le moment où Dieu demande à Moïse d'écarter la mer par sa parole pour que son peuple puisse passer. Ils ont tous été baptisés dans la nuée et dans la mer, en ce sens que la nuée qui était devant le camp est passée au-dessus d'eux et s'est placée derrière le camp. De là, la mer a été ouverte. Ils sont passés à travers la mer, à pied sec, il est dit. Ils sont rejoints l'autre côté. Le Seigneur les a suivis par sa présence sainte dans la nuée. Et ses ennemis qui continuaient à poursuivre, il les a anéantis. Et maintenant, ils sont dans la marche en avant vers la terre promise, vers le lieu de l'épanouissement, du repos que Dieu leur a annoncé. Et tout au long de cette marche, c'est la même nuée qui va d'une part reposer sur le tabernacle pour résider au milieu du peuple, mais qui va aussi les conduire et les précéder dans leur marche. Et de plus, le Seigneur va se révéler à eux comme étant également leur nourriture et leur breuvage. Et c'est cela qui va faire toute la vie du peuple d'Israël jusqu'à ce qu'il atteigne le lieu promis par Dieu. Eh bien, c'est ce qui fait aussi notre vie à toutes et à tous. À partir du moment où nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, ils ont tous été baptisés dans la mer et dans la nuée, nourris du pain de Dieu et abreuvés de son esprit. Voilà ce que nous avons en Jésus pour notre vie chrétienne. Et nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit, et si nous lui obéissons, vers la présence éternelle de notre Seigneur. Nous marchons aussi pour que son règne soit établi, parce que ce que Dieu veut, c'est que nous préparions aussi ce temps où il règnera et il nous emploie, il le prépare avec nous. C'est pourquoi à chaque étape, lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés. C'est rappelé dans un psaume très complet, complexe, même, je dirais, j'avais fait, vous savez, des commentaires sur les psaumes pour l'émission de radio. J'ai recherché mon commentaire sur le psaume 68, mais en fait, je n'ai pas fait de commentaire sur le psaume 68. J'ai juste relevé quelques petites caractéristiques du psaume, mais je pense que je me suis limité, j'ai pas développé parce que c'est un psaume. Ce matin, je lisais justement dans le commentaire biblique que c'est un des plus beaux psaumes et un des plus complets psaumes de la Bible, du psautier. Et il commence justement par Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Et au cours du psaume, il est rappelé la marche de Dieu. Et si nous marchons vers la terre promise, ça ne peut être que conduit, assisté, fortifié par la présence même de Dieu, qui est par le Saint-Esprit qui vient mettre en nous toute la bonté, la consolation de Jésus-Christ, la vérité, l'esprit de sainteté, mais qui nous permet aussi d'avancer face aux ennemis. pour établir le règne de Dieu. Parce que, ici, il n'est pas dit, Moïse ne dit pas, que nos ennemis se dispersent, mais que tes ennemis, ses ennemis se dispersent et s'enfuient, rappelle le psaume. Avant toute chose, ce sont les ennemis de Dieu. Et si certes beaucoup dans ce monde n'arrivent pas à la connaissance de Dieu, c'est pas parce qu'ils ont des ennemis personnels, c'est parce qu'il y a les ennemis de Dieu qui les empêchent de comprendre, de s'approcher, de se confier au Sauveur. Les ennemis sont d'abord ceux du Seigneur. Jésus disait « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Ce n'est pas vous qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Constamment dans l'Écriture, on s'aperçoit que lorsque les hommes sont contre nous, en réalité ce n'est pas contre nous qu'ils sont, c'est contre Dieu. Et c'est Dieu lui-même, de ce fait, qui a pris les choses à sa charge et qui s'est présenté pour livrer lui-même le combat. C'est lui qui était présent dans la nuée, c'est lui qui, en Jésus-Christ, a accepté ce passage à travers la mort, c'est lui qui nous en délivre, c'est lui qui nous entraîne à sa suite dans la victoire, c'est sa victoire à lui, c'est toujours lui, tout a été mis sous les pieds de Jésus-Christ. Je faisais un petit commentaire cette semaine sur quelque chose qu'on m'avait donné à lire, où il était dit que Dieu a tout mis sous nos pieds. Eh bien non, Dieu n'a pas tout mis sous nos pieds. Tout a été mis sous les pieds de Jésus-Christ, du Fils qui a donné sa vie pour nous. Et nous, nous bénéficions, bien sûr. Et alors, le Seigneur nous permet d'entrer dans sa victoire et de bénéficier de sa victoire. Mais c'est lui le victorieux et nous marchons conduits par lui pour être dans la victoire, dans l'espérance de son royaume éternel. Dieu règnera sur la terre qui est son œuvre et sa propriété. Et par notre foi, nous régnerons avec lui. Le Seigneur nous encourage d'ailleurs par cette parole. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais c'est le Dieu de paix qui l'écrasera. Ce n'est pas nous qui allons l'écraser. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'abord de marcher dans le désert, avancer sur le chemin du salut, aux conditions et sous la direction de notre Seigneur, dans les temps qu'il a fixés d'avance, et avec l'assurance qu'il sera toujours là pour se lever et remporter, nous faire entrer dans sa victoire à lui. Je vous lis encore 2-3 références dans les prophètes, et puis voilà le reste de la parole. Ésaïe, chapitre 33, versets 2 et 3. Éternel, aie pitié de nous Nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. Chapitre 12, verset 6 du même prophète, c'est un autre aspect. Mais c'est cette présence permanente là de Dieu au milieu de nous. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Zacharie, chapitre 2, verset 13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Peut-être, et je pense, beaucoup d'habitants du monde croient que Dieu est endormi et qu'il ne va pas se réveiller. Mais à un moment donné, Dieu se réveille, et quand il se réveille, qu'il se lève, à ce moment-là, les peuples tremblent, les peuples s'enfuient, les nations se fondent devant lui. Je reviens en arrière sur Ésaïe, chapitre 30. Parce que quand même, constamment, nous sommes rejoints nous-mêmes par la puissance du péché, et puis nous avons l'impression que, oui, Dieu n'est plus avec nous. Et le Seigneur est vraiment miséricordieux, et au chapitre 30, d'Ésaïe, verset 18, alors que justement il est question de toute une dérive du peuple d'Israël, « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce. » Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Et les promesses défile encore ensuite. Alors tout cela est dit dans les prophètes, mais si nous allons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 6, eh bien nous y lirons la même assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Lorsque les ennemis du Seigneur sont dispersés, que peut me faire un homme? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien sûr, il y a quand même cette double action du Seigneur, cette contre ses ennemis extérieurs, mais contre l'incrédulité qui demeure au sein de son peuple, d'où toutes les mésaventures et les jugements qui ont eu lieu sur Israël au désert même, devons parvenir à une foi entière, pure, et bien souvent, le Seigneur est obligé de nous reprendre. Et je lirai quand même 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit au milieu de nous exige que notre vie s'aligne parfaitement sur la sainteté de Dieu. Et il nous est possible à nous aussi, théoriquement en tout cas, de rejeter Dieu en rejetant ses préceptes. Mais le Seigneur dit dans son évangile, celui qui écoute ma parole, qui reçoit les commandements que je lui donne, alors celui-là, je cite imparfaitement, mais celui-là, je suis, moi et mon Père, nous sommes avec lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, voilà, il y a cette part en nous qui peut rester ennemie de Dieu. Et vraiment, nous demandons au Seigneur que la puissance et la présence de son Saint-Esprit permettent de détruire toutes ces choses d'incrédulité qui restent dans nos vies. Psaume 139, verset 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. » Voilà le Saint-Esprit. « Tu m'entoures par derrière et par devant. » Le Seigneur a entouré son peuple, il l'a baptisé, il l'a gardé des ennemis de l'arrière, il l'a gardé des ennemis de l'avant. Et c'est ainsi qu'ils ont pu marcher à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur se lève constamment chez ceux qui crient à lui pour faire miséricorde, ça c'est un fait. Et puis un jour, il va se lever pour effrayer la terre, Ésaïe chapitre 2, versets 17 à 19. Que le plus grand nombre puisse déjà avoir rejoint la terre promise avant ce temps-là, et soit à l'abri, qu'il soit passé à travers la mer, et qu'il soit donc protégé de cette destruction qui vient sur l'Égypte. Le Seigneur, en tout cas, a cette œuvre complète par le Saint-Esprit de nous couvrir, de nous protéger, de nous délivrer et de nous faire avancer jusqu'au royaume qu'il a préparé pour nous. Alors, justement, à chaque fois qu'il est question de la nuée et de la présence de l'Esprit de Dieu, il y a question du feu. C'est une nuée de feu. À la Pentecôte, ce sont des langues de feu. Le Seigneur vraiment brûle déjà tout ce qui est péché en nous. Et puis notre Dieu est aussi un feu dévorant pour ceux qui résistent, ceux qui se détournent et veulent affronter sa souveraineté. Alors nous allons continuer, par la grâce du Seigneur, à marcher dans le désert, à marcher sous la conduite du Saint-Esprit, à n'agir que selon et sur les commandements du Seigneur lui-même. Essayer au maximum de ne pas prendre d'initiative qui soit selon nos propres désirs, selon notre chair, selon nos envies, nos idées, mais vraiment marcher sous la conduite du Saint-Esprit et dans sa puissance à lui. Nous ici, qui sommes la plupart des adultes, hein, je crois qu'il n'y a qu'une seule adolescente ici, dans l'assistance, et puis un enfant encore. Voilà. Mais imaginez que, allez, la moitié de l'assemblée soit rejointe par tous les jeunes qui sont en train d'être, je sais pas, dominés par l'esprit de ce monde-là actuellement, et se mettent à marcher avec nous et avec le Seigneur. Et que ce soit eux qui deviennent la force motrice, les jeunes de 14, 15, 16, 17. Moi, je prie pour cela. Je prie que Dieu accorde, parce que ça ne peut venir que de lui, mais que Dieu, comme il le fait au milieu des musulmans, que Dieu accorde à cette génération, la génération des réseaux sociaux, la génération des images, que Dieu accorde à cette génération d'être délivrée et de pouvoir entamer la marche sous la conduite du Saint-Esprit. Eux qui probablement vont, on se demande comment ça peut être autrement, vont arriver sur la fin de l'histoire des hommes. Est-ce que la fin de l'histoire, la fin des temps, sera marquée par un effondrement total de la foi? Ou est-ce qu'il y aura une génération qui aura été suscitée à nouveau pour être prête à prendre possession du royaume? Vraiment, vraiment, prions et agissons pour que demain, les dimanches prochains, des jeunes se lèvent parce que Dieu leur aura dit « Je me lève et je veux que vous soyez levés avec moi. » Ils pourront avancer dans la sécurité parfaite, parce que même si les ennemis de Dieu seront de plus en plus nombreux et virulents et puissants, ils auront le Seigneur avec eux. Amen.